Les 10, 11 et 12 avril 2014 avait lieu à l'Université de Toulouse 2 Le Mirail un colloque intitulé « Entre déprise, reprise et emprise, vivre le vieillir ». Retour sur les échanges qu'il y a eu pendant ces 3 jours avec 6 sociologues qui ont accepté de répondre à nos questions. On les écoute.
Alors, je suis Françoise de Barnugin, je suis sociologue à l'Université de Brest, Bretagne occidentale, et je suis donc à Toulouse depuis pour toute la semaine sur ce colloque et ce workshop consacré aux formes du vieillir.
Oui, ben Marcel Druille, je suis professeur émérite ici dans cette université. Voilà, il se trouve qu'il y a plus de 25 ans, j'avais lancé des recherches sur ces questions du vieillissement, de la vieillesse et des choses comme ça. Aujourd'hui, une nouvelle jeune équipe poursuit ce travail. C'est elle qui a organisé cette manifestation scientifique et j'en suis très heureux.
Alors justement, vous, vos travaux, quand vous avez démarré, se portaient sur quoi ?
Essentiellement, on essayait de comprendre comment évoluer le vieillissement et dans les différents contextes ruraux et urbains, essentiellement ici dans la Haute-Garonne et un peu plus largement dans Midi-Pyrénées. Et puis progressivement, les choses ont évidemment changé, évolué.
Et vous, du coup, vos travaux portent sur quoi ?
Alors, on va dire que j'ai commencé mes travaux il y a à peu près une vingtaine d'années à partir de recherches plutôt sur l'intergénération, sur des liens de famille. Et je m'intéressais à ce qui transformait l'expérience des femmes devenues grand-mères. En quoi la grand-maternité change des relations entre générations, entre genres aussi dans la famille, et aussi la relation au monde professionnel, au monde de militants, au monde à la citoyenneté de ces femmes devenue grand-mère. Et puis depuis déjà près de 20 ans, je me suis intéressée à différents contextes du vieillir aussi, et surtout à la manière dont le vieillissement est devenu progressivement une occasion de travail pour des proches, au fur et à mesure que certaines situations, même si elles sont très minoritaires, c'est-à-dire le fait de vivre avec des déficiences difficiles à compenser, fait que certaines vieilles personnes se trouvent en situation de handicap pour des durées plus ou moins longues, et du coup que ça génère évidemment un travail de demande à l'égard de la société, mais que la société met en place des dispositifs. Alors moi j'ai regardé plutôt l'allocation personnalisée à l'autonomie, j'ai regardé l'adaptation de l'habitat, j'ai regardé la protection juridique à l'égard des personnes qui sont en situation d'incapacité, et j'ai surtout regardé sur ces 3 contextes-là comment les politiques publiques font appel à la fois à des professionnels, mais maintiennent, voire parfois enrôlent les proches, des conjoints, des enfants, pour des bonnes et des mauvaises raisons dans ce travail de famille. Donc on a essayé de mettre en évidence avec une équipe à Brest les compétences des proches pour ce travail familial de santé et la manière dont il est refasciné, rattrapé par les différentes politiques publiques et les pressions qui s'exercent donc sur les proches dans ces situations-là. Et puis plus récemment, on a regardé comment le travail des proches et des professionnels aussi se complexifie parce que beaucoup de personnes sont en situation de polypathologie et font des expériences quand même à la fois d'être sollicitées pour dire ce qui leur conviendrait, pour être plus citoyennes, pour participer à leurs propres soins, et comment du coup aussi ça transforme le travail des proches que de vouloir préserver les capacités de leurs parents, et en même temps comment tout ça se fait dans un contexte quand même de pression sur les professionnels, de tension sur les budgets publics et de sortie précoce de l'hôpital, d'un travail majoré du soutien qui est assez diffus dans l'espace social et qui mobilise quand même et qui parfois peut-être crée des situations d'exclusion sociale ou de mise à distance, rend en tout cas peu visible ce travail au plan de l'espace social. On s'est intéressé aussi à l'organisation des quartiers, aux objets techniques dans l'espace urbain et l'espace rural, pour voir comment ils préservaient des capacités pour les vieilles personnes, ou au contraire, comment ils les mettaient à distance du fait de la difficulté d'usage, tout simplement.
Juste, je voulais faire remarquer que, comme vous le constatiez, bon, à peu de choses près, on a commencé nos travaux quasiment. Et une des choses qui est remarquable aussi, c'est que chaque fois, On a eu des projets de recherche, mais je dirais ponctuels et sur des gens d'une génération déterminée. Et je dirais, en vieillissant nous-mêmes, nous disions, mais bon, ça ne suffit pas, il faudrait pouvoir suivre des gens. Et là, justement, les jeunes collègues ont réussi à avoir un financement pour avoir un travail en cohorte, c'est-à-dire quelque chose de suivi sur plusieurs années. Et nous pensons que, du coup, apparaîtront des choses qu'on ne voit pas comme ça en regardant des situations à un instant T, quoi.
Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment d'études sur le long terme menées sur 10 ans, 20 ans, menées sur les personnes, la situation des personnes âgées ?
Non, il y en a eu, mais ça c'est, je dirais, de l'ordre de la projection démographique, économique, voire un peu sociologique. Mais voir les processus réels à l'œuvre sur la durée, jusqu'alors, bon, on a essayé d'en induire certains aspects à partir de ce que nous savions, mais on n'a pas eu les moyens, je crois, encore de les vérifier, sauf quand même certaines équipes. On a ici des collègues de Suisse, de Genève, qui ont fait, ça fait maintenant, ça fait plus de 15 ans, qui suivent des cohortes de personnes âgées dans différentes situations de leur pays. Et déjà, ça apporte des aspects tout à fait importants, intéressants. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'en France, on arrive à faire quelque chose du même ordre.
Est-ce que c'est un domaine dont s'emparent les sociologues, les jeunes sociologues, de plus en plus ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects qui se croisent. Je pense qu'il y a effectivement des jeunes sociologues aujourd'hui qui viennent à ces questions pour diverses raisons, parce qu'ils sont aussi dans des familles et des espaces plurigénérationnels, aussi parce qu'un certain nombre de thèses aujourd'hui sont financées en sciences sociales ou en sciences biomédicales sur la question de la longévité ou du vieillissement, et on pourrait discuter sur les termes. Maintenant, il y a aussi beaucoup de travaux qui se font avec des entrées par pathologie, par maladie, par exemple, ce qui est quelque chose à la fois de stimulant et en même temps quelque chose qu'il faut déconstruire. Parce qu'effectivement, ce qui est caractéristique quand même du processus du vieillissement, c'est qu'il est affecté de plusieurs événements pour soi, pour autrui, de l'environnement social de manière extrêmement large. Et si on veut regarder les choses en termes de liens sociaux, c'est pas à chaque événement qu'il faut, ou à chaque maladie pour elle-même qu'il faut comprendre, mais effectivement, il faut mettre ça dans un continuum d'analyse. Et c'est pour ça que les travaux d'équipe, de grosses équipes aujourd'hui méritent d'être privilégiées, avec des terrains effectivement qui ne soient pas non plus que des capitales européennes, c'est-à-dire des diversités de contextes de vie des vieilles personnes, et puis des réflexions aussi sur la diversité de cette expérience quand même, et des inégalités sociales qui traversent aujourd'hui les manières de vieillir dans les différents pays d'Europe et au-delà.
Oui, c'est pour ça que il faut toujours aussi veiller, comme on vient de le suggérer, à contextualiser ce vieillissement justement par tout le contexte social. Et c'est pourquoi, enfin ici à Toulouse au moins, on avait essayé de réinsérer cette sociologie du vieillir plus largement dans une sociologie de la santé, hein, avec l'enjeu des inégalités sociales de santé et des choses comme ça, parce que c'est très important. Sinon, on prend les choses uniquement par le petit bout de la lorgnette, et il faut au contraire essayer d'élargir un peu les perspectives, ou en tout cas de bien les contextualiser.
À votre avis, à tous deux, quel est aujourd'hui l'enjeu principal à réfléchir à ces questions ? Pourquoi c'est important que vous retrouviez à ce colloque ? Et pourquoi c'est important que le grand public s'empare de ces questions ?
Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir une analyse pas que de la question du vieillissement, en faisant une question pour elle-même. L'intérêt des chercheurs qui se retrouvent ici, c'est qu'à la fois, ils ont envie de rendre compte des expériences du vieillir et qu'en même temps, ils n'oublient jamais que vieillir, c'est une question de parcours de vie, que c'est une question aussi de comment nos sociétés discriminent, organisent des âges de la vie. Donc c'est questionner le monde du travail, le monde des seniors, le monde de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que participer socialement ? Et du coup, évidemment, c'est une sociologie générale qu'on fabrique ici. C'est pas une sociologie que de la situation de la vieillesse. Et c'est une sociologie qui interroge, il me semble, les âges, les places, les interactions sociales. Et ce qui est intéressant dans les travaux des jeunes chercheurs, c'est quand même qu'ils insistent sur les dynamiques de participation sociale des personnes, qu'elles soient en situation de prodiguer des services, de les recevoir et de les prodiguer à titre, on va dire, de professionnel ou de proche, mais aussi à titre de responsable des collectivités, des institutions publiques. Ça interroge aussi le politique, l'organisation sociale. La vieillesse, c'est pas un objet pour elle-même, c'est une expérience ordinaire de la vie pour la majorité des citoyens, et donc c'est la question de la socialisation, des liens sociaux en général. Quand même, pour une part, c'est des trajets longs aujourd'hui de la vie dans lesquels on n'est pas dans quelque chose qui basculerait sur le statut d'être vieux, par exemple. Là, on remet quand même beaucoup en question cette expérience-là.
Non, d'ailleurs, pour juste rajouter quelque chose à ce que vient de dire Françoise, ma collègue, cette dynamique, on la retrouve, je dirais, globalement, mais on la retrouve aussi au niveau des familles, par exemple. Hier matin, il y a eu une conférence sur cette dynamique familiale dans la prise en charge, alors justement, mais d'une vieillesse déjà plus marquée par des limitations, enfin des choses comme ça. Et une des choses aussi qui est très importante et dont je suis émerveillé, c'est de voir comment des gens aussi font état d'innovation sociale dans ce milieu. Tout à l'heure, on vient d'écouter une conférence sur le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est oui. Bon. C'est une des choses parmi d'autres, bien sûr. Il y a quelquefois des innovations, je dirais, presque imperceptibles qui peuvent être peut-être plus importantes que ça. Mais voilà, on essayait de voir aussi quelles sont les dynamiques de changement, de transformation d'un certain nombre de choses qui peuvent concourir à améliorer les qualités de vie, les modes de vie des gens. Après, il faut bien voir aussi que pour beaucoup de gens, il y a une longue carrière de travail derrière, et Dieu sait si les questions de pénibilité, des choses comme ça, entrent en jeu, et on ne peut pas aussi faire comme si ça n'existait pas.
Je m'appelle Pierre Ayache, je suis sociologue, retraité à l'heure actuelle. J'étais chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, où j'ai fini comme directeur de recherche depuis pas mal d'années. Et je continue malgré tout à être actif et à être sollicité pour intervenir principalement sur le thème des inégalités sociales de santé, qui a été au fait le fil rouge de ma recherche depuis mon entrée à l'INSERM, même si j'ai travaillé sur bien d'autres sujets.
Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un colloque sur les nouveaux regards sur le vieillir. En quoi est-ce que ça vous intéresse par rapport à vos recherches, vous, précédentes ?
Malgré tout, il y a quand même une relation entre le vieillissement et la mort, et notamment la question des différences sociales en matière de mortalité ou en matière de vieillissement. Même si ce thème du vieillissement différentiel n'a pas été particulièrement traité dans le cadre de ce colloque, mais bon, je regrette, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui peut être mis en comparaison, à la fois vieillir différemment selon qu'on est ouvrier ou cadre, etc., selon qu'on est homme ou femme, et puis mourir prématurément selon qu'on est ouvrier, par rapport à un cadre moyen, un cadre supérieur, etc., et que l'on est homme ou femme également. Parce que c'est aussi la question du genre ou du sexe, comme on veut, qui intervient fortement dans ces questions-là.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'on peut parler de santé à deux vitesses par rapport justement aux inégalités sociales ?
Écoutez, bien sûr qu'il y a des différences, qu'il y a certainement des injustices, notamment concernant les populations étrangères, population rom par exemple, que j'ai étudié en particulier. Mais le fondement, les déterminants principaux des inégalités ne se situent pas là. Ça, c'est, il se situe dans les conditions de vie, et les conditions de travail en particulier, qui ont été celles des individus qui meurent de façon prématurée ou pas. Hein. Et c'est à travers cela et l'analyse approfondie de ces conditions que l'on peut mettre en lumière les déterminants. Et c'est une fausse. La thèse des services de santé comme étant à l'origine, c'était une thèse qui a été souvent avancée, notamment dans les administrations françaises, parce qu'il suffisait à ce moment-là d'aménager les services pour diminuer ou faire disparaître les inégalités, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'elles ne diminuent pas du tout, au mieux elles se maintiennent, au pire elles augmentent. Mmh. Avec les inégalités sociales, c'est-à-dire que les inégalités de santé sont le résultat final et synthétique des inégalités sociales en général, en termes de revenus, de logement, de travail, de conditions de vie, et évidemment de mode de vie aussi, dans les façons de manger, de boire, etc. Ce qui est à l'origine, le principal déterminant, c'est les conditions de travail. Voilà, des conditions de travail que l'on peut aimer par ailleurs, hein, même si on est ouvrier, mais qui vous détruisent, par les difficultés de ce travail, par la pollution qui est inhérente à certains travaux dans le bâtiment ou dans les usines, et l'inhalation de particules comme les mineurs par exemple sont à l'origine, ça c'est bien mis en évidence et en valeur, même si c'est minimisé par certains épidémiologistes et aussi bien français que britanniques par exemple, hein, qui n'accordent qu'un pourcentage relativement faible, alors que ça tourne autour de 40 à 50% de la mortalité différentielle entre ouvriers par exemple et un professeur ou un cadre sup. Les inégalités face à la mort ont été mesurées relativement récemment. Ce qu'il faut mettre en place tout un appareillage de statistiques pour mettre en évidence là. Et la France est un pays pionnier au XXe siècle, c'est-à-dire en 1955, a été mis sur pied l'enquête longitudinale de l'INSEE sur 800 000 hommes, 800 000 femmes, dont on a, à partir de 35 ans, dont on a mesuré ensuite la mortalité différentielle selon la profession déclarée, selon l'âge, etc. Donc c'est à partir du moment où on a des instruments de mesure que l'on arrive. Et jusque-là, alors c'est avec l'industrialisation que cette mortalité différentielle s'est manifestée, en fait, principalement. Et avec les progrès de la médecine aussi, dans la mesure où il y a eu une époque pas très lointaine, où au fond, tout le monde mourait à peu près au même âge. En tout cas, les statistiques les plus anciennes ne montrent pas véritablement de différence. Voilà, et ce qui fait que Jean-Jacques Rousseau, par exemple, ou d'autres, disaient que les riches pouvaient mourir du fait qu'ils mangeaient trop ou trop mal, et les autres, les pauvres, parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Mais que, tout compte fait, cela se contrebalançait, quoi, voilà. Mais la vie, l'industrialisation, le capitalisme industriel avec les usines, avec les manufactures et avec les conditions de travail liées à ce type de travail a produit d'abord une société structurée en termes de classe et ensuite des conditions de vie et de travail différentes, évidemment très différentes selon qu'on est un banquier ou bien un mineur de fonds dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Où la mortalité est encore bien plus forte là, pour un ouvrier et un employé, pas pour un cadre, par rapport à la moyenne française. Donc il y a des surmortalités régionales liées à tout l'historique de ces régions et aux conditions de vie et aux particularités économiques de ces régions.
Est-ce que, d'après vous, le stress au travail, dont on entend beaucoup parler, va faire partie bientôt, qu'on pourra la mesurer comme quelque chose justement de symptomatique à ce niveau-là ?
Bah écoutez, moi, je n'ai pas très porté à accepter ou à utiliser ce terme de stress. ce qu'il faudrait véritablement... C'est une façon aussi de mettre derrière un terme des choses que l'on ne mesure pas vraiment. Voilà. Et dans quelle mesure ça influe, ça joue sur l'état de santé des individus en termes de mortalité? Je ne dis pas, j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que les spécialistes qui mettent en avant cette notion, je les connais d'ailleurs, il y a beaucoup de Britanniques, et du coup ils minimisent complètement, parfois même ils oublient d'autres facteurs, beaucoup, à mon sens, beaucoup plus importants, comme les conditions de travail, qui semblent ignorer d'ailleurs dans leur analyse. Bon, alors est-ce que il faut voir pathologie par pathologie, cas particulier par cas particulier, comment dans l'histoire d'un individu ou d'un groupe social, des déterminants successifs ont fait leur chemin en termes de vulnérabilité. Il faut prendre cette notion de vulnérabilité est essentielle. On a un organisme qui devient de plus en plus atteint et qui à un moment peut basculer vers une pathologie prématurée ou une mort prématurée parce que l'organisme n'est pas en mesure de résister et à égalité de pathologie déclarée. Selon le milieu social, la vulnérabilité n'est pas la même parce que toute leur histoire est différente. Et du coup, on voit des survies après diagnostic qui ne sont pas les mêmes selon l'appartenance sociale. Vous voyez, par exemple, le cancer du sein, vous voyez, les femmes du milieu populaire ont un peu moins, maintenant c'est de cancer du sein, mais elles en meurent davantage après 5 ans. C'est-à-dire, vous voyez, donc il s'est passé quelque chose entre le diagnostic fait à peu près, même sa dévolution exactement, et le moment où elle meurt, quelque chose qui est en rapport certainement avec l'état général, avec la polypathologie et avec peut-être aussi le suivi médical qui n'est pas le même. Donc des choses complexes, difficiles, qu'il faut étudier, que malheureusement on n'étudie pas beaucoup, et notamment en France. Ces questions de survie, c'est extrêmement important.
Jamal El Wafa, maître de conférences de psychologie clinique et sociale à l'université de Mohamed V à Rabat. Je présente un travail sur l'état de santé des immigrés marocains habitant dans les foyers de Sanacotra en Île-de-France.
Et alors, quelles sont vos remarques, conclusions par rapport à ce travail?
Les remarques, on a plusieurs remarques. Donc, c'est un travail qui a abordé surtout la représentation de la mort aussi. Donc, j'ai parlé de leur précarité de santé parce que ce sont des gens qui ont vécu, qui ont travaillé dans des travaux pénibles, dans des travaux publics, dans les mines surtout, dans les régions d'Alsace-Lorraine. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de symptômes concernant la santé, une santé vraiment qui est précaire. Et consulte des médecins, bien sûr, des gens qui souffrent de l'arthrose, des gens qui souffrent aussi de Parkinson, et on a pas mal de gens aussi, et on a même des paralysés partiels. Et donc il y en a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à leur état de santé.
Est-ce que ces personnes souffrent aussi d'une forme d'isolement ou est-ce qu'ils ont réussi à garder des liens avec leur famille?
Bien sûr, ils sont isolés dans ces foyers-là parce qu'au début, ils étaient arrivés là pour travailler. C'est prévu même pour le gouvernement français à l'époque de travailler, de retourner chez eux. C'est pour ça qu'ils ont construit ce logement, mais ils sont encore là parce qu'ils n'ont pas fait le regroupement familial. Ils gardent toujours leur famille dans le pays d'origine, ils ont des enfants dans le pays d'origine, mais ils font la navette entre les deux pays pour des raisons financières, pour des raisons d'adaptation. Donc ils sont toujours, comme dit Omar Samouri, ils ont la valise dans la tête. Donc ils sont toujours dans les bus entre les deux pays et ils restent ici pour des raisons de santé, pour toucher leur minimum vieillesse quand même. Donc toutes ces raisons-là, les facteurs financiers, facteurs d'adaptation, de facteurs de santé aussi, donc ils sont là. Et sûrement ils vont rester jusqu'à leur mort.
Comment ils appréhendent leur place dans la société française en tant que vieilles personnes, de personnes vieillissantes?
Oui, il faut savoir que ce sont des gens qui habitent dans des foyers isolés. Parfois, on trouve des foyers dans des zones industrielles. Donc, même, je sais pas, leur intégrer dans la société française, c'était pas vraiment une priorité du gouvernement français. Donc, ils sont isolés, ils sont les oubliés des politiques migratoires, soit français, soit marocain. Donc, eux-mêmes, ils ont un sentiment d'abandon des deux pays, surtout la France, parce qu'ils ont donné tout pour la France, c'est-à-dire ils ont donné leur santé. Et voilà, donc ils sont toujours avec un regret, donc ils ont le regret de ne pas réussir, parce que leur but principal, c'était de réussir leur projet migratoire. Donc pour des raisons de travail, et la majorité de ces gens-là, il faut savoir qu'ils n'étaient pas déclarés. Ils touchent des retraites précaires de 300 à 400 euros. Donc c'est pour ça, ils ont un sentiment d'abandon et de gâcher, parce qu'ils ont gâché leur vie aussi, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Seulement, ils ont une fierté qui concerne la réussite de leurs enfants dans les écoles. C'est ça, une fierté, parce qu'ils sont fiers d'envoyer leurs enfants dans des écoles, collèges, même à l'université. C'est la fierté de ces gens-là.
Est-ce que les liens familiaux restent forts, même en France, du coup, par rapport à...
En France, sauf s'il y a vraiment des membres de la famille, donc ils peuvent rendre visite à des membres de la famille. Mais les liens familiaux, c'est-à-dire ils vont envoyer de l'argent à leur famille, ils vont les appeler par exemple chaque jour, parce que si vous connaissez les deux France, c'est les taxophones, donc ils appellent leur famille chaque jour. Donc les liens avec le pays d'origine, c'est-à-dire d'origine culturelle, c'est la nourriture, ils vont faire fréquenter les quartiers populaires, Barbès, Porto-Clientcourt et ainsi de suite. Sinon, les liens avec le pays d'origine, c'est-à-dire religieuse, donc ils vont fréquenter la mosquée. Et la communauté, c'est vraiment primordial de garder un contact entre eux, et vont rentrer une fois ou deux fois par an dans le pays d'origine de voir leurs enfants et leurs femmes, bien sûr, sachant que ce sont des gens qui souffrent d'une misère sexuelle, donc ils souffrent vraiment parce que la famille est oubliée, comme on dit. Donc il y a une souffrance, parce que j'ai trouvé vraiment des difficultés pour aborder ce côté sexuel avec ces gens-là, parce qu'ils se refugient dans la religion, parce que c'est un péché, on ne touche pas, on ne va pas vraiment contacter les prostituées, et ainsi de suite. Donc il y a une misère, on sent vraiment dans leurs paroles, dans leurs regards, dans leurs yeux, il y a une misère.
Donc on sent dans ce que vous dites que la situation de ces personnes, c'est quand même une accumulation comme ça de difficultés quand même.
C'est une trajectoire qui est vraiment pénible. C'est ça, donc c'est le résultat d'une trajectoire vraiment ratée. Les gens qui ont travaillé, qui ont réussi à avoir de l'argent, ils ont fait quelque chose dans leur pays d'origine, c'est-à-dire un commerce, sinon quelques maisons et ainsi de suite. Eux, ils n'ont pas vraiment réussi de le faire, donc c'est ça la problématique.
Je m'appelle Régis Schlagdenaufen, c'est un nom bien alsacien, et je suis sociologue et je travaille notamment sur les questions de vieillissement et d'homosexualité.
Alors tu as justement réalisé une étude qui est en cours, on va dire, tu peux nous en dire un petit peu plus?
C'est une étude qui s'est divisée en deux parties, une partie dite quantitative où il s'agissait de voir sur internet s'il y avait des hommes âgés de plus de 60 ans qui utilisaient les sites de rencontres pour rencontrer d'autres hommes. Et donc j'essayais de comprendre quels étaient leurs profils et les atouts qu'ils mettaient en avant pour pouvoir séduire. Alors il y a des choses un peu drôles, comme par exemple « je ne suis pas bedonnant et j'ai toutes mes dents », quelqu'un écrivait ça. Mais dans d'autres cas, eh ben, il y a par exemple la maturité, l'expérience, qui sont des qualités qui sont mises en avant pour essayer de rencontrer d'autres personnes. Ensuite, eh ben, il y avait une autre partie, c'était des entretiens, donc des interviews avec quatre hommes qui ont quatre trajectoires très différentes. Il y en a qui étaient mariés, qui ont des enfants, il y en a d'autres qui n'ont jamais été mariés, qui ont toujours eu des relations passagères. Un troisième qui est en couple depuis 45 ans, donc ça fait un sacré moment. Mais le point commun entre ces hommes, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, ils ont connu un grand creux autour de la cinquantaine, parce qu'ils étaient un peu encore trop jeunes pour séduire ceux qui aiment les vieux. et déjà un peu trop vieux pour ceux qui aiment les pas trop vieux. Et donc, ils m'ont expliqué que depuis 60 ans, eh ben, ils avaient connu une sorte de révolution et qui commençait ou qui continuait d'attirer toutes sortes d'hommes. Et je trouvais ça très surprenant et très encourageant.
Donc, ils n'appréhendent pas du tout le fait de vieillir de la même manière. Il y a un côté assez positif pour certains d'entre eux.
Ben, je crois que souvent, la question qui se pose, et je ne peux pas en témoigner parce que je suis encore trop jeune, c'est que ben, on a des peurs concernant l'avenir, mais une fois qu'on y est, eh ben, on gère différemment les choses.
Quelles sont les perspectives pour ton étude? Comment tu aimerais poursuivre ce travail?
Dans plein de directions différentes. Pour en savoir plus sur les femmes, par exemple, aussi. Les femmes qui aiment les femmes, c'est une bonne question. Mais aussi comprendre mieux... Là, c'était juste l'orientation homosexuelle, mais il y a aussi la question de la vieillesse chez les hétéros, que je connais très très mal et qui est très importante parce que c'est la majorité de la population. Donc il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent et qui, j'espère, pourront être concrétisées.
Ton enquête touchait combien de personnes?
C'est deux enquêtes conjointes. Alors il y en a une, c'était 129 personnes concernant les hommes homosexuels. Et ensuite, pour les entretiens, j'en ai réalisé une douzaine.
Comment la notion de genre, la différence entre hommes et femmes, et puis aussi les orientations sexuelles, peuvent être marquantes dans le vieillissement?
Il y a une question fondamentale lorsqu'on appréhende ça sous le terme de genre. C'est ce que la société nous autorise de faire et ce qu'elle nous interdit selon qu'on soit un homme ou une femme et qu'on vieillit. Et pour le dire simplement, c'est un peu plus compliqué les rencontres lorsqu'on est une femme pour plein de raisons. La première, c'est par exemple que la tradition ou l'usage veut que les hommes soient plus âgés que les femmes. Or, les femmes vivent plus longtemps et en meilleure santé que les hommes, donc ça limite un peu le marché. Et il en va de même aussi pour la division des tâches, ce qui fait que, par exemple, des femmes veuves n'ont pas forcément envie de se remettre en couple si c'est pour continuer ou recommencer de faire la lessive et repasser des chemises. Alors, moi, tout ce que je souhaite pour les générations à venir, c'est que les petits garçons apprennent aussi à faire le repassage. Et comme ça, ça pourra soulager leurs petites dames s'ils sont dans cette configuration.
Oui, Jean-Pierre Lavoie, chercheur retraité, Montréal, Canada. Professeur associé aux écoles de travail social de l'Université McGill et de l'Université du Québec à Montréal.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des travaux que vous avez menés et de votre intervention sur ce colloque?
Oui, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, j'ai fait beaucoup de recherches sur le soin offert par les familles à leurs parents, à leurs vieux parents. Donc, au départ, mes recherches ont surtout porté sur l'expérience de ce soin aux parents âgés. Ensuite, je me suis beaucoup intéressé aussi aux relations avec les professionnels et les intervenants des services publics. Et je suis même allé jusqu'à regarder un petit peu les politiques publiques en lien avec justement le soin qu'offrent les familles à leurs parents âgés.
Quelles sont les différences majeures entre la manière dont on appréhende le vieillir au Québec et en France?
Le vieillir, c'est un peu compliqué. Si j'essayais de passer peut-être plus sur la façon dont les familles, peut-être, prennent soin de leurs parents âgés, il y a des dynamiques assez, un petit peu différentes, autant du côté des familles que du côté, des services et de l'État. Disons que ce qui caractérise probablement le Québec, du côté des familles, c'est une vision très, très, très nordique. En fait, je dirais qu'on a des modèles familiaux très proches de ce qu'on retrouve dans les pays scandinaves, donc des familles très autonomistes, donc des conjoints et surtout des enfants qui vont dire « oui, nous sommes responsables de nos parents ». Mais en même temps, notre rôle, c'est probablement surtout de les accompagner, de les soutenir, de les encourager, et aussi donc de s'assurer qu'ils aient les services qu'il leur faut. Et donc, c'est plus vraiment une logique du faire-faire qui est très présente. Alors qu'en France, cette position est aussi très présente, mais quand je lis les collègues français, il y a quand même malgré tout un modèle familial un peu plus que parfois on qualifie de traditionnel, où c'est vraiment les familles qui prennent dans le fond vraiment le soin en charge et qui donc vraiment dans leur approche, c'est à la famille vraiment donc à assumer le bain, à assumer les soins, les repas et tout, et qui donc en principe donc vont probablement s'investir davantage. Là où je parlais justement des services publics, en fait, c'est donc face à probablement des familles québécoises qui mettent davantage de balises. Il faut dire aussi qu'au Québec, les taux d'activité, entre autres chez les femmes, sont plus élevés qu'en France. Nos taux d'activité chez les femmes dépassent, en fait, ou sont équivalents à ceux des pays scandinaves, encore une fois. Et cependant, donc chez nous, alors qu'il n'y a en principe aucune obligation aux enfants de prendre soin de leurs parents, l'obligation alimentaire chez nous est très peu appliquée, les gens souvent ne la connaissent même pas. En retour, on offre très 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 peu de services. Le niveau de service offert à une personne âgée avec incapacité à domicile au Québec est à peu près le tiers de ce qui s'offre en France. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de familles qui ont une vision, donc, du faire-faire, mais qui sont confrontées en même temps à un État qui, lui, leur dit, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais nous, on ne fait pas grand-chose. Et donc, ensuite, ils relancent, ou en fait, ils replacent les familles devant un peu leur obligation morale. Ce qui crée d'ailleurs énormément de frustration et de détresse. Et ça, dans mes entretiens, ça ressort beaucoup, comment, en fait, beaucoup de femmes qui se voient d'abord comme des professionnelles, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu des fois un, deux et même trois enfants, et qui ont poursuivi leur activité professionnelle, se retrouvent maintenant 50, 55 ans, à devoir quitter leur emploi, prendre un emploi à temps partiel, voire anticiper la retraite pour prendre soin des parents. Alors qu'en France, tout en ayant une mentalité ou une valeur où la famille a peut-être plus de rôle à jouer, mais finalement, bon, l'État offre nettement plus. C'est sûr que quand je parle à mes collègues français, de voir, on répond à 25 % des besoins, c'est rien. Les familles se retrouvent avec le lot de soins à faire. Mais chez nous, on est à 8 %. Donc, les familles se retrouvent avec 92 % des soins à assumer. Et donc, il y a un peu, finalement, une espèce de paradoxe entre le Québec et la France, où en France, on a des familles qui sont probablement un peu plus prêtes à prendre soin de leurs parents, où on a d'ailleurs, avec l'obligation alimentaire, des prescriptions. En fait, la famille n'a pas le choix, elle doit prendre soin. Mais en même temps, on a un État qui en fait passablement plus, insuffisamment, mais passablement plus qu'au Québec.
Donc, vous voulez dire qu'au Québec, on se retrouve plus souvent avec le cas où quelqu'un de la famille se retrouve à, par exemple, arrêter son activité pour s'occuper du parent vieillissant.
J'aurais de la difficulté à vous dire qu'il y en a plus, mais ce que je dirais, probablement de la part des familles qui le font, probablement que c'est vécu bien plus difficilement, avec plus de révolte, probablement.
Quel est, d'après vous, l'enjeu actuel à parler bien de ces problèmes dans ce colloque et pour le faire connaître au grand public?
Je dirais, on commence à peine, et ça autant en France qu'au Québec, à reconnaître ce que les soignants de la famille font. Et quand je parle de reconnaître, c'est vraiment de le reconnaître de façon tangible, effective. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine il y a une vingtaine d'années, tant en France qu'au Québec, le terme allait bon. Aidant qu'on utilise, est inconnu. Et moi, je me rappelle dans mes premiers entretiens, quand je parlais à des gens, je dis, vous êtes aidant? Non. C'est quoi ça, aidant? Alors que maintenant, cette réalité-là commence à être connue. Et donc, jusqu'à un certain point, reconnue, mais probablement, comme je dis, souvent davantage reconnue du bout des lèvres, quoi. Oui, on reconnaît qu'ils ont une contribution importante, mais pour moi, une véritable reconnaissance va venir le jour où ces aidants seront vraiment soutenus par donc un État qui va être actif, des professionnels actifs, mais des professionnels qui vont aussi bien saisir la réalité et les rationalités des familles. Dans la présentation que je faisais à un moment donné, je disais comment au Québec, souvent les relations entre les professionnels et les familles étaient vraiment dans un registre de tension, de combat. Et effectivement, on voit des professionnels qui comprennent encore très très mal les logiques familiales, les priorités, comment en fait les familles conçoivent le besoin et le soin à leurs parents, qui est très, très, très différent de celui des professionnels. Et on a encore trop souvent des professionnels qui arrivent dans des familles, dans des maisons, dans l'intimité des gens, avec leurs gros sabots et sans aucune considération.
Oui, donc c'est à ce niveau-là que les lignes doivent un peu bouger pour peut-être plus reconnaître la compétence de la famille, de l'aidant.
Ben, reconnaître la compétence et reconnaître leur spécificité. En fait, il y a une tendance très nette au Québec, qui est amorcée depuis plusieurs années, qui s'amorce aussi en France, qui est finalement toute cette idée de transférer aux familles des soins de plus en plus complexes et où finalement on essaie pratiquement de transformer les aidants familiaux en aides-soignantes. Et donc, on leur délègue de plus en plus d'actes professionnels, alors que, un, elles n'en veulent pas. Ce qui fait, à un moment donné, c'est un peu ce que je dis aux professionnels, c'est que vous voulez faire des soignants de la famille, des soignants professionnels, des experts en soins techniques, alors qu'en fait, leur première expertise, c'est leur expertise en papa, en maman, en mon mari, en ma femme. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est la très, très longue relation. C'est la connaissance intime du parent, du conjoint, de son identité, de ses besoins. Et ça, chez les aidants, là-dessus, c'est leur expertise, ils l'ont, et c'est celle qu'ils veulent continuer à avoir et à promouvoir, et pas nécessairement, donc, une espèce d'expertise technique dans les soins, les injections, ou trucs comme ça.
Oui, parce que d'autant plus qu'il faut quand même une petite formation pour faire ce genre de soins.
Oui. Oui, mais que souvent les professionnels disent, bon, mais moi j'ai pris 10 minutes à donner une injection, donc 10 minutes à la personne, elle va savoir comment. Et je le répète, je dis, oui, mais vous avez choisi d'être infirmière, pas eux, pas elle.
Oui. Voilà. Merci beaucoup.
De rien, ça m'a fait plaisir.
Cette émission a été réalisée par l'Association d'éducation populaire et de diffusion artistique Gudule et Galipette avec le partenariat de l'association Les Chemins Buissonniers. Retrouvez-nous sur www.gudule-galipette.fr.
throat to song.
One, two.